I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission.
Victor, on va passer au thème de la semaine. Et le thème de la semaine, il concerne les coachs. Et on ne sait pas hein, s'il y a certaines équipes éliminées des playoffs qui vont changer de coach. Certains disent qu'éventuellement, si Nick Sirianni perd face aux Buccaneers, il pourrait partir. En tout cas, nous, on va se concentrer sur les équipes qui sont à la recherche de coachs actuellement. Les équipes qui sont déjà en vacances et qui ont licencié leur coach. Il y en a 7 qui cherchent un entraîneur. Il y a les Chargers, il y a les Falcons, les Titans, les Commanders, les Raiders, les Seahawks et les Panthers. On l'a dit un peu plus tôt, les Patriots ne sont pas à la recherche d'entraîneurs. Et cette semaine, Victor, le thème, il est simple. On va se mettre dans la peau d'un general manager. On va prendre chaque équipe. On va essayer de trouver qui serait le candidat idéal pour notre équipe. On s'est partagé les deux conférences. Tu seras le general manager de la NFC. Je serai le general manager de l'AFC. Et on va commencer directement pour que ce soit plus clair pour tout le monde et que les gens comprennent. On va commencer par cette NFC. On va commencer par les Falcons. Tu es désormais officiellement manager général des Falcons. Tu viens de remercier Arthur Smith. Tu lui as serré la main. Il est parti. Il a pris sa voiture. Il s'en est allé. Tu te retrouves désormais dans ton bureau et tu dois trouver un coach. Vers qui jettes-tu ton dévolu?
Écoute, je suis GM. Apparemment, mon président me susurre dans les oreilles que Bill Belichick, ça serait une sacrée bonne idée. Mais je décide de résister à mon président et d'imposer mes choix. Et je choisis le coordinateur le plus hype actuellement pour commencer. Je choisis Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions.
Alors, c'est vrai que tu dis, il y a des rumeurs qui disent que le président aimerait beaucoup voir Bill Belichick donc, à la tête de cette franchise. Mais tu résistes, pourquoi? Pourquoi prendre Ben Johnson, qui est, tu l'as dit, le coordinateur actuellement des Lions qui sont encore en playoff, on le rappelle?
Bah écoute, parce que déjà, pour moi, les 32 head coachs de cette ligue devraient être des coachs offensifs. Parce que je pense que l'attaque aujourd'hui est fondamentalement plus importante que la défense. Et qu'en cas de départ ou autre, c'est plus facile de reconstruire un schéma défensif qu'offensif. En tout cas, plus simple de changer de coordinateur. Ensuite, Ben Johnson, globalement, il a montré que si tu lui donnes des pièces, pas forcément des pièces XXL, mais si tu lui donnes du Jared Goff, du Amon-Ra St. Brown à l'époque où il était rookie, du Sam Laporta en rookie, du Jamison Williams, etc., il arrive à te faire littéralement une des attaques les plus spectaculaires de la NFL.
Et Atlanta, il y en a.
Et là, tu lui donnes Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson, Tyler Allgeier, plus une très bonne ligne d'ailleurs, une ligne très correcte. Oui, il y a le facteur quarterback. C'est vrai. Hein, je veux dire, c'est évident. Mais globalement, j'ai l'impression que ce que Atlanta doit faire, C'est exactement ce qu'il a fait à Détroit, en fait. Et la priorité d'Atlanta aujourd'hui, c'est maximiser cette attaque. Parce que tu viens littéralement de dépenser 3 top 10 d'affilée en attaque. Donc, il y a un moment, cet investissement, il doit payer. Pour moi, clairement, ça doit être attaque, attaque, attaque. Et du coup, Ben Johnson, à voir quel quarterback il aura pour céder. Mais en tout cas, c'est pour moi aujourd'hui le coach le plus hype. Alors, depuis hier, on a peut-être un autre, on en parlera. Mais sur ces 2 dernières saisons, il a quand même fait un travail tellement extraordinaire qu'il mérite sa chance.
Oui, pas de Bill Belichick parce que défense ou parce que trop vieux. Pourquoi tu résistes justement?
Parce que défense, parce que trop vieux et parce que management des années 2000.
Parce voilà. Que cette équipe, tu l'as dit, elle doit maximiser son potentiel offensif, mais c'est vrai que cette défense aussi, elle pose beaucoup de questions. Est-ce que voilà, un coach défensif pour toi serait pas la solution?
Non, non, tu prends un bon cordeau défensif X ou Y, mais. Non, moi, vous le verrez de toute façon, à une exception près que j'expliquerai, mais je suis parti que sur des coachs offensifs.
Donc, Ben Johnson, qui est recruté, parce que quand Victor, GM d'Atlanta, appelle Ben Johnson, quand il le pourra, parce que pour l'instant, il ne peut pas encore faire des interviews, mais Ben Johnson acceptera forcément. Donc, Ben Bien. Johnson, vous l'aurez entendu ici, recruté par Victor Roulier, GM d'Atlanta. Désormais, c'est à moi que revient l'honneur de recruter un entraîneur. Je suis GM des Raiders actuellement. Et les Raiders, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, parce qu'avec les Raiders, il y a toujours du suspense. Mais je vais choisir Antonio Pierce, l'entraîneur actuel des Raiders, en tout cas l'entraîneur intérimaire. Déjà parce que, manifestement, je n'ai pas beaucoup de choix quand on voit les news qui sortent du côté de Las Vegas, parce que vous l'avez peut-être suivi. Mais il y a en tout cas, il y a le vestiaire qui semble être totalement acquis à la cause de Pierce. On a vu des rumeurs comme quoi Max Crosby aurait annoncé à ses dirigeants que si Pierce n'était pas titularisé, il demanderait à être tradé. Quand l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et de la défense dit ce genre de choses, c'est vrai que ça pose vraiment question. Et du coup, pour m'acheter un petit peu la paix, je choisis Antonio Pierce. Et en même temps, Victor, pas forcément une mauvaise décision. Antonio Pierce, il a montré qu'il n'a pas fait pire que Josh McDaniels, en tout cas, en cette fin de saison, quand il a été le coach intérimaire.
C'est ça, en fait. Tu, littéralement, tu as encore, je crois, 80 millions d'euros à payer sur Gruden et McDaniels, alors que, qui étaient 2 énormes signatures, vous allez voir, coach révolutionnaire et tout, ça a été 2 catastrophes. Donc, autant calmer le jeu, de toute façon, tu ne joueras pas Super Bowl l'année prochaine, et autant faire ce que tu n'as pas osé faire avec Bisaccia et que tu aurais certainement dû faire, c'est-à-dire le garder et voir comment ça évolue. Les capacités de meneur d'homme, elles sont incontestables. Il va falloir un coordinateur offensif, ça me paraît assez clair par contre. C'est-à-dire que, oui, à garder Pierce, mais en faisant des ajustements sur coaching staff quand même. Mais après, ça me paraît être dans la continuité. Et autant essayer le risque, on va dire, financièrement bas pour l'instant, et voir comment ça se passe pendant au moins un an.
Oui, parce qu'il y a en effet des questions financières, parce que je ne sais pas exactement combien d'argent ils doivent payer encore à Josh McDaniels ou si ça s'est réglé, mais certainement qu'ils doivent encore peut-être lui donner quelques millions. Pareil pour Gruden, qui avait signé pour 10 ans, je crois, et qui, à mon avis, doit encore avoir peut-être quelques millions. Donc, peut-être un coach qu'on signerait un peu moins cher serait une bonne solution. Et puis tu l'as dit, il y a aussi cette situation avec Rick Bisaccia il y a quelques saisons qui n'avait pas été gardé quand il a fait l'intérim de John Gruden pour aller prendre Josh McDaniels. Finalement, ça ne l'a pas fait. Donc c'est vrai que pour ça peut être une bonne solution. Encore que tu parlais d'un président tout à l'heure. À Las Vegas, on le sait, le président aussi aime bien prendre des décisions qui peuvent être, comme on dit, flashy. On parle beaucoup notamment de Bill Belichick. Dans le chat, on nous dit s'ils prennent Bill Belichick après McDaniels, ils vont faire une émeute aux Raiders. On parle aussi peut-être de Harbaugh. Et on sait aussi que Pierce a déjà été demandé par d'autres équipes pour faire des interviews. Tout ça mélangé, ça donne beaucoup de questions à Las Vegas, Victor.
Ouais, ça serait quand même très rigolo que les Raiders, dont l'actionnaire minoritaire est Tom Brady, recrute Bill Belichick.
Qui prendrait Josh McDaniels en coordinateur offensif.
Qui prendrait Josh McDaniels et Matt Patricia en coordinateur offensif défensif. Non, globalement, je... Oui, il est imprévisible, ça c'est sûr. Malgré tout, je pense que là, quand même, il a voulu jouer au plus flashy et il s'est tellement pris les pieds dans le tapis que, à mon avis, ça va le calmer pendant au moins un an ou deux.
On va voir. En tout cas, on repasse en NFC, Victor, avec les Commanders. Commanders qui ont changé beaucoup de choses aussi, qui ont annoncé leur nouveau general manager. Je n'ai pas vu ton nom. C'est Adam Peters qui est le nouveau general manager des Commanders. Mais c'est toi, aujourd'hui, le general manager qui choisit l'entraîneur, qui ont choisi pour être le coach principal des Commanders pour la saison prochaine.
Oui, Adam Peters, c'est un nom générique que j'ai choisi pour rester dans l'anonymat.
Je comprends. Ça fait très nom générique, d'ailleurs.
Oui, non, mais c'est ça. C'est genre Troy Smith, Adam Peters. Ils existent, quoi, mais Josh Daniels. J'ai choisi Eric Bieniemy. Pourquoi ? Alors, Bieniemy, c'est un cas très particulier. Ça a été un coach offensif reconnu à Kansas City qui a eu des interviews pendant des années. Alors, au début, on a dit oui, il n'a pas les postes parce que, je vais être tout à fait franc, hein, les rumeurs, c'était il n'a pas les postes parce que c'est globalement du racisme et comme il est noir, c'est plus difficile d'avoir les postes. Alors, qu'il y ait du racisme en NFL, oui, que ça soit plus difficile d'avoir les postes, oui. Malgré tout, on a vu beaucoup de coachs noirs embauchés dans le même temps. Par contre, la rumeur qui est revenue très régulièrement, c'est qu'il était catastrophique en interview. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Mais apparemment, vraiment catastrophique.
Et quand on parle d'interview, on ne parle pas des interviews à la presse. Hein. On parle des entretiens d'embauche.
Entretiens d'embauche, oui, voilà. Donc, à voir, évidemment, parce que si tu l'as dans le building, comme on dit, dans l'immeuble, et que tu sais que c'est un cas très difficile au niveau du caractère, peut-être que tu n'auras pas envie d'en faire ton coach. Mais en attendant, faudra bien un jour lui laisser sa chance et... En fait, si tu veux, là encore, les Commanders, c'est un peu comme les Riders. Si tu n'es pas pressé, tu reconstruis. Tu ne vas pas jouer le titre l'année prochaine. Tu ne seras pas au niveau des Cowboys et probablement des Eagles l'année prochaine. Même les Giants ont une meilleure dynamique que toi. Donc, il y a besoin de temps. Donc, autant prendre, entre guillemets, le moins risqué. Quelqu'un qui connaît la maison, mais qui pour autant saura imposer des nouveaux choix, parce qu'il faut aussi choisir un nouveau coordinateur défensif. On sait, hein, le départ de Rivera et de Del Rio, qui était un peu plus avant dans la saison, mais fait qu'on va devoir revoir tout le schéma défensif. L'avantage, c'est que c'est littéralement l'équipe en NFL qui a le plus de caps disponibles et qui a un nombre de choix énorme puisqu'ils ont tradé tout le monde. Donc, ils ont le temps. Je dirais qu'en fait, vu le cap disponible et vu les pics, le plus important, c'est de ne pas s'être planté sur le general manager, à mon avis. Plus que sur le coach.
Et vu qu'ils t'ont choisi, c'est bon. Tout est bon.
Oui, voilà, évidemment. Voilà.
En revanche, non, mais là où c'est intéressant, et pour rebondir sur Eric Bieniemy, c'est vrai qu'il y avait aussi, avant qu'il arrive à Washington, il y avait aussi toute cette histoire qui disait à quel point l'attaque des Chiefs est du fait d'Eric Bieniemy ou elle est du fait d'Andy Reid. Est-ce que ce n'est pas plutôt Andy Reid et qu'Eric Bieniemy est juste là pour faire le tampon avec Andy Reid et Patrick Mahomes ? Quand on voit ce qui se passe en attaque à Kansas City cette saison, on peut imaginer, et encore une fois, on fait des supputations, mais on peut imaginer que l'absence d'Eric Bieniemy puisse aussi être un facteur du fait que cette attaque des Chiefs se soit ralentie un petit peu. Quand on voit à Washington l'attaque, on voit que cette franchise, ce n'est pas forcément la production offensive qui a été le vrai problème de l'équipe cette saison. Eric Bieniemy a été plutôt correct et a fait passer Samuel pour un quarterback qui lance beaucoup. Il y a un nouveau quarterback qui va arriver, justement, certainement en tout cas, parce qu'ils vont avoir un choix très haut de draft. Est-ce que tu fais confiance justement à Eric Bieniemy pour avoir un quarterback rookie et à réussir à le développer ?
Écoute, je pense que oui. Je pense vraiment qu'il a l'expérience, il a su travailler. Je veux dire, l'école Andy Reid, c'est aussi savoir accompagner les joueurs. Là-dessus, Andy Reid, il était très en avance sur son temps. Sur ça et je pense que oui, avoir un Bieniemy ça peut être une bonne chose pour développer un joueur. Après, bon, voilà, on verra bien, et encore une fois, ce sera le choix du general manager aussi, mais je trouve qu'il y a des armes intéressantes. Il y a Terry McLaurin, il y a Antonio Gibson, il y a Brian Robinson, tout ça. On en a parlé d'ailleurs dans le podcast draft. Qui veut le numéro 1 de choix de draft? Je vous invite à aller voir. Donc écoute, Bieniemy, je trouve que c'est sûr, c'est un pari très limité, mais je trouve qu'il faudra le faire un jour et pas sûr que l'herbe soit plus verte ailleurs.
En tout cas, si ça se passe comme tu le dis, ou en tout cas comme on peut l'imaginer ici, sur ce scénario, ce serait une des décisions parfaites pour Eric Bieniemy, qu'on a vu partir de Kansas City pour aller à Washington pour le même poste, pour être coordinateur offensif. On s'est demandé pourquoi il prenait cette décision. Il a peut-être senti, et on le savait tous aussi, que Ron Rivera était un petit peu en danger et qu'il aurait pu éventuellement être le prochain sur la liste. Si ça se passe comme ça, c'est du tout bon pour Eric Bieniemy. On verra. En tout cas, moi, je vais partir en AFC. Je vais partir avec les Titans qui ont licencié Mike Vrabel, l'entraîneur, l'ancien linebacker des Patriots dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et je vais choisir, puisque on en parle beaucoup depuis le début de ce podcast, et enfin de ce fauteuil, et notamment dans le chat, je vais choisir Bobby Slowick, le coordinateur offensif des Texans, qui en effet, il y a beaucoup de crédit qu'il faut donner à D'Amico Ryans sur cette belle saison de Houston pour l'instant, mais il y a aussi beaucoup de crédit qu'il faut donner au coordinateur offensif qui nous sort des systèmes et qui met ses joueurs dans les meilleures conditions. Certes, CJ Stroud est un très bon quarterback rookie, mais on a l'impression aussi qu'il est mis dans des conditions parfaites pour performer, pour être serein, pour trouver des joueurs dans les bons endroits au bon moment. L'attaque performe bien. Et dans ce que tu disais, la lignée d'avoir des coachs offensifs pour des équipes, je vois bien Bobby Slowick aux Titans avec certainement Will Lewis. On va certainement partir avec Will Lewis en tant que quarterback qu'il va falloir développer. Et je sens Bobby Slowick capable de le faire, Victor.
Oui, bah c'est un des choix les plus hype du moment aussi. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une Ben Johnson, c'est-à-dire qu'il reste un an de plus pour se peaufiner, honnêtement. Parce que je pense que voilà, c'est très jeune, ça vient de commencer, il a encore le temps. Après, il y avait une discussion dans le chat de TDA, je crois, ce matin. Il y a aussi des entraîneurs qui ont attendu parce qu'ils avaient encore le temps et finalement, le train n'a jamais repassé. Donc, c'est toujours
puis,
un risque.
Il y a des questions financières quand on est recruté, surtout que Bobby Slowick, il va certainement avoir beaucoup de franchises qui vont lui passer un petit coup de téléphone.
De toute façon, son salaire, il va au moins doubler, même s'il reste. Hein.
C'est vrai.
Ça, c'est clair et net. Ça, je pense qu'il va y avoir une revalorisation salariale parce que le mec va arriver dans le bureau, il va dire « Alors attends, j'ai 14 équipes qui me veulent en coordinateur offensif et j'ai 3 équipes qui me veulent en head coach. Qu'est-ce que tu me proposes ?» Bon, tu vois, là, forcément, les mecs, ils vont être obligés de bouger. Il ne faut pas se mentir. Mais malgré tout, s'il décide de partir, ce qui est tout à fait honorable, c'est un très bon choix. Ça va être à galère hein, pendant un an ou deux à Tennessee, mais en même temps du coup il n'y aura pas une pression dingue, là encore personne ne s'attend à ce que tu gagnes tout de suite. Il va repartir quasiment d'une page blanche parce qu'il n'y a pas de Derrick Henry, il n'y a pas de tout ça, enfin il y a probablement plus de Derrick Henry.
Oui, quand on voit Derrick Henry, tout ce qu'il a fait, quand il a dû au revoir à tous les supporters des Titans, j'ai du mal à l'imaginer.
J'ai du mal à l'imaginer revenir. Vraiment. D'ailleurs, sa conférence de presse était incroyable. C'est-à-dire qu'il a remercié tous les gens qui travaillaient dans le building et genre, il connaissait le nom et le...
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
L'avis de tout le monde. Je veux dire, à la cafette, dans les vestiaires, à l'entrée, à la sécurité, à machin. Et ça vous montre la qualité de l'homme.
En même temps, ça fait plusieurs années aussi qu'il est à Nashville,
Ouais,
mais
mais quand même.
c'est vrai que pas tous les joueurs sont capables de le faire, je pense.
Non, dans les entreprises, il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans, ils ne savent pas ton prénom. Non, non, tout le monde n'est pas
Tu
comme
t'appelles
ça.
comment d'ailleurs?
Moi, c'est Adam Peters, on m'a dit. Mais ouais, pour le coup, je trouve que Sovic, c'est vrai que bah, ça donne envie parce que je disais, le match face aux Browns, c'était dessiné magnifiquement. Donc, écoute, il a un jeune quarterback qui a en plus un beau bras. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
En tout cas, pour les Titans, c'est ça aussi le danger pour des équipes comme ça, c'est d'aller chercher des coachs en espérant avoir des coachs qui sont encore en playoff. On le sait que c'est très réglementé, on ne peut pas les interviewer à certaines périodes. Et puis certainement que ces coachs-là aussi ne prennent pas leurs décisions avant la fin des playoffs, donc ce qui peut ralentir le processus. Et quand il y a plusieurs équipes sur le dossier, il peut choisir une autre équipe et on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau avec le candidat numéro un qui n'est plus là et les autres qui ont déjà pris leur choix, qui ont déjà fait leur décision. Donc ça va être intéressant à suivre pour les Titans. En tout cas, voilà, Bobby Slowick, c'est un nom qu'il faudra surveiller, qui pourra peut-être rester à Houston, mais qui sera appelé par beaucoup beaucoup d'équipes. Les Seahawks, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, Victor, on a parlé du départ de Pete Carroll. Il faut désormais trouver un nouvel entraîneur.
C'est ça. Et tu vois, j'écoutais le podcast de Around the NFL cette semaine et Dan Enzus disait un truc très vrai. Il disait, t'as pas envie d'être le coach qui remplace la légende. Tu as envie d'être celui qui remplace celui qui a remplacé la légende.
Toujours un petit tampon, un petit tampon.
Voilà, c'est ça. Si tu veux, donc, pour moi, pour succéder à Pete Carroll, il faut quand même des épaules très solides. Et c'est là où je suis un peu une exception à ma règle des 32 coachs offensifs. Je suis allé sur Mike Vrabel. Parce que Mike Vrabel, il n'a peut-être pas envie de perdre son temps dans des équipes comme les Panthers où il va falloir reconstruire pendant 14 ans, là. Là, je te donne une équipe où tu as un coureur, une ligne assez jeune, trois bons receveurs. Et bon, on verra le quarterback à moyen terme. Mais malgré tout, je te donne des armes. Il sera quand même capable de gérer la pression. Mike Vrabel, quand il rentre dans le vestiaire, c'est pas n'importe qui. Il a gagné Super Bowl en tant que joueur. Il a même, étant linebacker, reçu un touchdown au Super Bowl. Mais ça, c'est une autre question. Il a été un grand coach et tout. Enfin, globalement, c'est quelqu'un qui va imposer sa patte. Et ce vestiaire qui est fait quand même de joueurs de caractère. A besoin de ce genre de meneur d'hommes. En plus, je l'ai dit, le gros problème des Seahawks depuis 2 ans, là par contre, c'est la défense qui est complètement catastrophique. Il va pouvoir apporter son expertise aussi sur ce plan-là. Écoute, je trouve que pour le coup, c'est un des rares qui peut succéder à Pete Carroll sans trop crouler sous la pression, quoi.
Et justement, j'ai deux questions par rapport à ça. Il y a des rumeurs qui font, et on en a parlé tout à l'heure, qui font état d'un intérêt très, très, très appuyé pour Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys, qui est un spécialiste de la défense, donc qui rentrerait dans le profil que tu imagines pour les Seahawks. Pourquoi plutôt Mike Vrabel que Dan Quinn?
Délite sa gueule, je vais pas. Enfin, non, mais dans le sens où Dan Quinn serait un choix tout à fait légitime. Et en gros, tout ce que je viens de dire s'applique à Dan Quinn, si ce n'est qu'il n'a pas gagné le Super Bowl. Mais globalement, ça serait la même logique, en fait. C'est juste que moi, j'aime bien Mike Vrabel, j'aime bien la personne, j'aime bien ce qu'il apporte. Là où Dan Quinn, en tant que head coach, il y a eu du très bon et du très mauvais, quoi, on va dire. Donc là, honnêtement, les deux choix suivent la même logique et les deux choix s'entendraient. C'est vraiment un choix personnel. Je préfère Mike Vrabel à Dan Quinn.
Et comme tu es le général manager, c'est toi qui
Ouais.
choisis. L'avantage qu'aurait Dan Quinn, c'est de connaître la maison, puisqu'on le rappelle, il a coaché aussi dans le staff de Pete Carroll, donc il arriverait avec la connaissance de la maison. Dernière question vis-à-vis de ça, est-ce que les Seahawks ne sont pas, peut-être, en tout cas Seattle n'est pas le poste le plus attrayant de toutes les équipes qu'on a citées ici? Est-ce que ce n'est pas Seattle pour un coach l'endroit le plus attrayant parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément tout à reconstruire non plus?
Attends, rappelle-moi toi en AFC, j'ai déjà oublié les
Alors,
Raiders, Titans et
et les Chargers, c'est celui qui arrive après.
Il y a match Seahawks Chargers.
Ouais. Si on voulait résumer, est-ce qu'on pourrait dire que au Seahawks, il y a tout sauf un gros point d'interrogation au niveau du quarterback, alors qu'au Chargers, il y a le quarterback, mais il n'y a pas grand-chose autour. En tout cas, il faut reconstruire autour.
Il y a beaucoup de beaux noms, mais qui sont devenus des points d'interrogation. Ouais. Il y a beaucoup de choix à faire.
Bah justement, on va parler de Los Angeles. Et là, c'est moi, parce qu'on est en AFC, qui suis manager général de cette équipe. Et j'ai tenté un coup. J'ai appelé quelqu'un que tu connais bien, Victor. J'ai appelé Jim Harbaugh. Jim Harbaugh qui sera le nouvel entraîneur des Chargers parce que c'est Los Angeles, parce que c'est sexy, parce que voilà, ça fait de nombreuses années qu'il veut revenir en NFL. Il sort aussi d'une victoire avec son université de Michigan. Il a été bon plutôt en NFL, même si tout ne s'est pas toujours très bien passé. Il a un gros caractère, il est capable de subir cette pression qui va être là à Los Angeles. Et surtout, il y a une défense qui est, on peut le dire, assez catastrophique à Los Angeles. Et je fais confiance à Jim Harbaugh pour essayer de faire progresser cette défense parce que ça va être crucial pour les Chargers.
Oui, en soi, c'est vrai que c'est un serpent de mer, Jim Harbaugh. Ça fait depuis des années qu'on entend tous les ans qu'il va revenir. Là, c'est vrai qu'il est enfin champion national, donc on pourrait avoir peut-être l'idée qu'il considère, entre guillemets, que la boucle est bouclée et qu'il a fait ce qu'il avait à faire. En plus, il risque d'être suspendu en college football. Alors, je ne sais pas si une suspension s'appliquerait à la NFL. Je pense que c'est deux instances totalement indépendantes et que tu peux être suspendu à NCAA, ça n'influencerait pas la NFL. En soi, il y a un moment, j'ai envie de dire, pour cette équipe qui a perdu son âme et ses supporters en déménageant, retour à San Diego, hein, je me battrai tous les jours. J'adore cette ville de San Diego, une des meilleures des États-Unis, si vous avez l'occasion. Je trouve que ça serait tellement Los Angeles d'avoir Jim Harbaugh. C'est là, ça pourrait attirer un public et attirer, entre guillemets, du spotlight, parce que tu vis dans l'ombre des Rams qui ont été champions à 2 ans, tu vis dans l'ombre d'un McVay, tu vis dans l'ombre d'un Stafford. Globalement, vous promenez-vous à Los Angeles, hein, vous verrez, bon, déjà, vous ne verrez pas beaucoup de maillots de foot américain, vous verrez plus de maillots de Dodgers, mais vous ne verrez que des maillots des Rams. Hein.
Ouais.
Oui, un peu des Cards, mais vraiment, les Dodgers, c'est seul au-dessus du monde. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, il y a besoin de ça aussi pour créer quelque chose. Et pourquoi pas? Écoute, s'il y a bien une équipe qui doit le faire, c'est eux, je pense.
En tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi parce que quand on a regardé toute cette liste, et puis le thème ici, c'est aussi de pouvoir parler un petit peu de tous les candidats qui peuvent être possibles. Bon, c'est difficile de parler de tous les candidats hein, parce que les Chargers, par exemple, ils ont interviewé Patrick Graham, Kellen Moore, Leslie Frazier, Aaron Glenn, Ben Johnson, Morris, Dan Quinn, Steve Wilks. Voilà tous les entraîneurs qui veulent interviewer. Donc il y en a beaucoup, mais on essayait de vous en parler. De toutes les équipes, les 7 qui sont à la recherche pour l'instant de candidats et d'entraîneurs, c'est vrai que pour moi, les Chargers sont l'équipe qui peut faire le choix le plus flashy. Ils ont tenté un Brandon Staley il y a quelques années, qui était le choix du coordinateur qui monte en. Qui devient entraîneur principal, qui est jeune, qui a des idées et qui a un esprit relativement offensif. Là, je pense que ça peut voilà, tenter un Jim Harbaugh, ça peut tenter pourquoi pas un Bill Belichick. Pas sûr que ces deux entraîneurs décident de venir à Los Angeles parce que, pour parler de cette équipe-là un peu, Victor, il y a Justin Herbert, oui, mais est-ce que le quarterback suffit pour attirer un gros nom, voire même pour attirer des noms? Parce que là, on parlait d'endroits attractifs. Est-ce que Los Angeles est une équipe attractive?
Fiscalement, non. La Californie, non. Pardon, c'est mon côté comptable. Ouais.
C'est important.
Non, mais mine de rien, les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais la Floride et le Texas, ça attire beaucoup pour ça. Je pense en effet que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, tu es bloqué avec d'énormes contrats sur des vétérans qui, pour certains, ne performent plus, pour certains, ne performent pas assez. Et on ne parle même pas d'Aiden Money de J.C. Jackson, hein, parce que là, on se ferait mal à la tête. Donc, il y a un left tackle, il y a un quarterback, même, tu vois, les entre guillemets, ceux qui ont porté cette équipe pendant des années, Keenan Allen, il a 31 ou 32 ans, tu vois, ça arrive vers la fin, quoi. Donc, oui, ça va être compliqué. Je pense que l'année prochaine ou les deux prochaines années vont pas être forcément magnifiques pour les Chargers. Il va falloir être un petit peu patient parce qu'il va falloir nettoyer avant de construire. Et tout le monde n'aura pas cette patience.
Et pour terminer, tu as peut-être un collègue a mis des chiffres dans le chat parce que Zinku dit 13% de state tax. Je pense qu'on parle de la Floride hein, parce que 13%, ça me paraît peu.
La Floride, c'est même zéro quasiment,
ah oui,
je crois.
Parce que Zinku, n'hésite pas à nous dire de quel état tu parles parce que 13%,
parce
ça me paraît
que
peu pour
la Californie, c'est beaucoup plus que 13%
voilà.
Pour moi.
C'est beaucoup plus, en effet. Bon, voilà. En tout
Après,
cas,
ça dépend parce qu'il y a state tax, à county tax, enfin bref. Ouais, ouais.
Ça
dépend quel
le
niveau
podcast,
de taxation. Je ferai peut-être un jour un article, les taux de taxation moyens par État. Peut-être qu'il y a mine de rien, ça intéressera peut-être trois personnes.
Mais en tout cas, ça pourrait voilà, mettre en lumière certains choix peut-être d'entraîneurs. Où on sait que ce n'est pas motivé que par ça, mais on sait aussi que ça peut être des facteurs qui peuvent motiver. On va terminer avec la dernière équipe dont on n'a pas parlé, Victor, les Panthers. Et là, tu vas nous annoncer quelqu'un qui, pour toi, devrait arriver aux Panthers. Je te vois souffler. Ça va faire plaisir au chat parce que j'ai vu son nom passer depuis plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer, ce nom.
Ouais, alors, autant on avait un débat sur quel poste le plus attractif.
Oui, là,
je pense qu'il
n'y
a pas trop de débat sur quel poste moins attractif.
Ouais.
Le grand avantage des Panthers dans le recrutement, c'est qu'ils ont le propriétaire le plus riche de NFL et qui peut payer un mec 30 millions par an.
Et qu'il n'aura pas de pression, parce que si le propriétaire met de la pression avec l'équipe qu'il y a, le peu de choix, en tout cas même pas le choix de premier tour qu'il y a, personne ne viendra.
Écoute, c'est pas de sa faute à Bryce Young, mais Bryce Young, il aura coûté deux premiers choix de draft.
Ouais.
Donc, ça fait beaucoup. Bah après, Bryce Young, je veux dire, clairement, juste une seconde là-dessus. La fin de saison de Bryce Young, c'était la saison d'un mec mentalement brisé.
Oui.
C'était pas du tout Bryce Young à l'université. Il est beaucoup plus talentueux que ça. Donc, je pense qu'avec un nouveau coach, il peut faire beaucoup mieux. Il y a juste besoin d'un nouveau départ. Pour retourner à nos moutons, j'ai donc choisi Todd Monken parce qu'en fait, j'ai pas envie de cramer un jeune qui arrive avec des idées neuves et qui va se planter sur un roster tout pourri. J'ai plutôt envie de mettre un baroudeur. Todd Monken, il a eu du bon et du moins bon dans sa carrière. Il a été coach offensif des Buccaneers, ça s'est plus ou moins bien passé. Au Brown, ça s'est mal passé. Il est retourné à Georgia où il est double champion national. Il revient aux Ravens où là, ça se passe très bien. Il a un peu une carrière à la Dabble, si tu veux. Ces mecs qui ont échoué plusieurs fois avant de réussir, mais d'un autre côté, ça forge le caractère, t'apprends de tes erreurs, etc. Tout le monde n'est pas capable de se relever après des échecs. Et lui, il a été capable. Et du coup, ça reste quand même quelqu'un d'ultra expérimenté, qui sait ce que c'est que de galérer, qui ne va pas avoir peur de prendre le temps, qui va mettre les mains dans le cambouis, qui a quand même un réseau énorme qui va permettre, à mon avis, de bien s'entourer. Donc, je pense que ça fait partie de ces entraîneurs qui... ont les épaules et tu vois, il faut pas que ça soit trop une star parce que le mec va vouloir gagner tout de suite, c'est pas possible. Et à mon avis, il faut pas que ça soit trop un jeune parce qu'il va être perdu dans ce bordel. Donc, je trouve que Monken, c'est bien au milieu.
Monken, on le rappelle, un coordinateur offensif des Ravens actuellement. Il va falloir qu'il se mouille la nuque en passant de l'attaque des Ravens et les armes qu'il y a avec celle des Panthers s'il le fait. Mais c'est vrai que voilà, il faut trouver le bon candidat dans cette équipe-là et avec le matériel qu'il y a là. Et malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait que des entraîneurs peut-être qui soient en recherche de prouver quelque chose, peut-être un Monken. Est-ce que par exemple, il voudrait aller là? Alors oui, il y a le côté entraîneur principal et il n'y en a que 32 en NFL. Et comme tu le dis, le train ne, peut-être parfois ne passe qu'une fois. Mais c'est vrai, je reviens là-dessus, mais que ce poste-là à Carolina, il ne fait pas envie. Il ne fait vraiment pas envie.
Bah, faut y aller pour l'argent, hein, parce que globalement, si ton projet, c'est sportif, bah, tu restes à Baltimore, tu restes à Houston, tu restes à Détroit, tu restes n'importe où, sauf à Carolina, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qui est terrible. C'est que bah, non seulement tu as le pire effectif de NFL, en plus, tu n'as pas ton choix de draft. enfin en tout cas ton premier tour.
Ou alors tu crois vraiment en Bryce Young, peut-être qu'un entraîneur se sent voilà, capable de développer.
Oui, mais Bryce Young, je suis désolé, mais il va avoir un syndrome Daniel Jones. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans 4 ans, on ne saura pas s'il est bon ou pas, parce qu'il aura joué avec Jean-Michel Mainauber en receveur et Jean-Michel Cuparter en ligne offensive. Quoi. Tu vois, c'est ça qui me fait un peu peur. Oui. Ouais,
mais
on salue Jean-Michel Boujard.
C'est vrai. Il y a Bill Versky qui nous dit ça peut être Bill O'Brien qui connaît Bryce Young. Bill O'Brien, c'est vrai qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui va l'appeler hein, pour être coach principal. Donc, à mon avis, si les Panthers l'appellent et qu'ils sont convaincus que ça peut être la bonne solution…
Tant qu'ils ne le foutent pas JM, ça me va. Hein.
Ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça peut être un coach qui, à mon avis, voilà, ne peut vouloir redevenir coach principal, ne doit pas forcément avoir beaucoup, beaucoup d'appels parce que pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui veuille Bill O'Brien, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, Todd Monken ici aux Panthers, on vous a donné les 7 entraîneurs pour nous si on était GM de ces 7 équipes-là. On va terminer sur ce thème, sachant qu'il y aura peut-être, je l'ai dit, d'autres équipes qui seront à la recherche d'entraîneurs après les playoffs. Si Dallas perd ce soir, peut-être que Mike McCarthy ne sera plus l'entraîneur des Cowboys, peut-être qu'il sera un candidat potentiel. En tout cas, Dallas cherchera peut-être un coach. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer, mais à l'instant T, voilà ce que nous, on a imaginé comme candidat et comme entraîneur pour les 7 franchises qui cherchent des coachs principaux à cette intersaison.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.